J'ai une remarque qui me vient à l'esprit comme ça, mais comme je sais pas quel est le public exactement de cette formation, je veux absolument avec ces personnes. Mais quand les formateurs viennent voir les jeunes enseignants qui sont dans mon école, il est jamais question de ce que vous venez de dire. On ne leur parle. Moi, je n'ai jamais entendu un des enseignants des jeunes enseignants qui est dans mon école me dire la personne qui est venue me visiter m'a parlé de l'importance du langage pour élaborer une pensée ou ce genre de choses. Donc bon, bah ça, c'est, je pense que si les formateurs se font former dans ce genre de formation, c'est justement pour éviter ça à l'avenir, mais c'est quand même frappant parce que du coup, moi en tant que directrice, je me retrouve à dire des choses qui ne sont pas corroborées par les formateurs qui viennent les voir, et souvent ce sont des détails qui sont relevés, l'organisation de la classe, mettre les tables comme ci, comme ça, ou l'utilisation d'un manuel ou un autre, mais c'est extrêmement frustrant parce que quelquefois ils font des choses parce qu'ils vont être visités par quelqu'un et puis après ils reprennent le cours du projet qu'on a dans l'école. Bon, voilà, c'était une remarque. Et excusez-moi, j'ai une deuxième remarque, là c'est simplement parce qu'on a d'anciens élèves qui reviennent et qui sont au collège. Et là, ça s'est passé cette semaine, dont un élève qui est intelligent, gentil, enfin tout ce que vous voulez, qui a toutes les qualités, et qui revient nous voir. Il est en troisième et qui dit quand je suis en cours de français, je ne comprends pas les textes que nous fait étudier la prof. Donc on a essayé de voir avec lui. Il n'a pas de problème de lecture. Il lit bien. Il dit qu'il comprend les mots, mais que le texte, il le comprend jamais. Et donc là, il nous a donné l'exemple du journal d'Anne Frank. Il a dit qu'il n'avait pas réussi à comprendre le journal d'Anne Frank, mais que quand il l'avait vu en film, il l'avait compris. Donc la question ce qui m'est venu à l'esprit quand on en a discuté après avec les enseignants de l'équipe, c'est qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à avoir une représentation mentale, probablement parce qu'il y a un vécu qui est peut-être pas assez diversifié. Enfin, il y a peut-être que dans le vécu de certains enfants qui n'ont pas beaucoup bougé de l'endroit où ils sont, ou qui n'ont, il y a peut-être un manque de matière pour que le langage après puisse permettre justement cette réflexion. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est la question que je me pose. Il y a l'histoire du langage, mais il y a quelque chose qui précède. Il y a les situations vécues qui précèdent le langage.
Oui,
mais voilà, je me demande si ça, et je ne sais pas comment l'école peut agir là-dessus.
Mais je crois que vous le dites bien. Mais mon propos, c'est de dire que on en tient compte, on sait qu'il y a ces difficultés, mais que c'est notre boulot à l'école de mettre en place ces apprentissages. Sur l'exemple des textes qu'on ne comprend pas, justement, c'est parce que il va y avoir un travail ambitieux et qui ne, en classe même, qu'on ne va pas juste compter sur le déjà là pour que les élèves apprennent. Ils ont besoin de nous. Et apprendre à comprendre un texte, c'est un objectif à part entière. Et c'est parce que on va le faire ensemble en classe, dans des séances du type de ce dont je vous ai donné un tout petit aperçu dans la classe A, que tous les élèves vont progresser à cet égard. Et que où ça se fait ailleurs, ça se fait à la maison, où ils n'y arriveront jamais. Et pour eux, les textes, au-delà des mots qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, les textes et la manière dont on arrive à se construire une représentation mentale de ce que décrit le texte, de ce que raconte le texte, les élèves en difficulté, ils n'y arriveront toujours pas. Et ils se font des idées tout à fait étranges. On sera encore dans des malentendus. Ils se font des idées tout à fait étranges de la manière de s'y prendre pour comprendre un texte. Toujours pour reprendre cet exemple, puisque je l'ai pris et que vous rebondissez dessus.
Oui, c'est un bel objet de formation. Hein. Donc, quel est le problème? Le problème est que les élèves n'ont... Que signifie comprendre un texte et travailler sur la compréhension du texte?
Bonjour, donc moi je suis Anne Bertoni, je suis à la fois enseignante et formatrice et j'enseigne les lettres. Alors pour peut-être prolonger la remarque précédente, moi j'essaye de dire en formation une chose, la question du langage, c'est la question du lien à l'autre en fait, hein, c'est vraiment c'est l'attention qui nous est portée, qu'on porte à celui auquel on s'adresse et qui nous écoute en tant qu'enseignant formateur. Et ça, je pense que ça paraît être une porte ouverte, mais quand on entre en classe, et souvent quand on est jeune enseignant, on a tendance non pas à l'oublier, mais à pas en faire une priorité. Et je pense que ça, il faut vraiment toujours, toujours, toujours y penser, parce que la question du texte, par exemple, étudier Victor Hugo, a priori comme ça, c'est quand même une démarche, et peut-être que l'enseignant, là, il a une posture de médiateur, de véritable médiateur, de vulgarisateur au sens noble du terme. Moi, je sais que quand j'étudie des textes dits classiques avec mes élèves, la première question que je leur pose quand on a terminé la première lecture, c'est « qu'est-ce que vous en pensez ?» et non pas « qu'est-ce que vous en avez compris ?» parce que ça, c'est mon boulot pour parler court. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Et le fait de déjà les interroger sur une émotion, c'est les prendre en considération, à mon sens. Après, bon, il y a tout le travail pédagogique qui se fait. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que sur le plan des codes du langage. Dans une journée, un élève, il peut utiliser jusqu'à 4 ou 5 codes de langage différents à la maison, avec ses pairs, P-A-I-R-S, avec l'enseignant, avec les adultes, c'est-à-dire les cadres aussi. Hein, donc en fait, ça fait quand même une multiplicité de codes qu'il doit retenir, appliquer et intégrer. Qui sont aussi le rôle des adultes. Quand vous parliez de cadre tout à l'heure, je pense que la vraie mission du formateur, elle est peut-être aussi de transmettre ça. C'est qu'il faut prendre en considération la multiplicité des codes de langage que le jeune utilise dans sa journée. Dans sa journée.
Bonjour, je suis coordonnatrice d'un REP Plus à Paris. Alors du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, suite au constat que vous avez pu faire, enfin dans ces différentes écoles, quelle a été la portée formative pour les enseignants concernés. Enfin, qu'est-ce qui a été, est-ce qu'il y a eu des préconisations, est-ce que vous avez accompagné des cycles de formation. Voilà, qu'est-ce qui sur quoi ça découle en matière de formation à proprement parler, quoi, si je peux m'exprimer ainsi.
Les enseignantes qui avaient accepté, et on a été extrêmement reconnaissants, hein, de nous ouvrir leur classe avec confiance. Évidemment, on attendait des retours et avec d'ailleurs toute la frustration qu'il y a pu avoir pendant l'année, puisque ces retours, on les leur a seulement donnés à la fin, parce qu'on ne voulait pas non plus, on n'était pas dans une recherche-action dans laquelle il s'agissait d'étudier les retombées. Ça, on le fait aussi parfois, hein, on est engagé en ce moment dans certains REP Plus sur des recherches-action-formation, où on construit des dispositifs ensemble et on les observe et on regarde ce qu'ils donnent. Et bon, là, c'était pas du tout le cas. Hein. On essayait réellement d'avoir, enfin, d'observer pour pouvoir les analyser des pratiques, la pratique habituelle et non modifiée par une intervention de formation. Alors, évidemment, hein, on a résisté, hein, je vous le disais, pour ne pas, pour pouvoir faire notre recherche, hein, on a résisté pendant l'année, mais évidemment, à la fin de l'année, et on est retourné un peu l'année suivante, hein, pour pouvoir leur donner des éléments de retour sur ce qu'on avait pu observer et pour pouvoir pouvoir aussi répondre. C'était le contrat au départ. Hein. Il faut évidemment que tout le monde y trouve son compte dans un hein, qu'il y ait de l'échange dans des situations de comme ça. Hein, donc où on leur a aussi donné des éléments de formation à leur demande sur certains aspects didactiques, etc. Voilà.
J'ai eu l'occasion de lire votre livre l'année dernière, que j'ai découvert, que j'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt et que je trouve très intéressant et édifiant, justement, et concret sur, effectivement, ce qui est donné à voir dans certaines classes et ce qu'on peut qualifier de bonne pratique. Vous avez travaillé sur le premier degré, et même s'il y a des choses qui sont extrêmement transférables sur le second degré, je voulais savoir si vos recherches allaient se diriger vers le second degré et peut-être notamment aussi en éducation prioritaire ou en lycée professionnel, on retrouve une difficulté scolaire qui est dont les causes sont relativement communes.
Il y a eu déjà des recherches de notre équipe, les premières recherches portées sur le collège autant que sur le primaire. Il y a le livre d'Elisabeth Bottier et Jean-Yves Rochex qui a déjà maintenant plus de 15 ans sur les nouveaux lycéens. Hein. Il y a eu aussi des travaux en lycée professionnel. Donc c'est vrai que si vous allez rechercher dans la bibliographie de l'équipe, il y a des choses. Je vous disais qu'actuellement, on travaille dans des REP+, à la demande, hein, puisque il a été souhaité par l'institution qu'il puisse y avoir des équipes de recherche qui viennent donner des coups de main dans les REP+. Donc, on est investi dans des REP+, en Seine-Saint-Denis et à Paris actuellement. Il y a l'école primaire et collèges qui sont investis dans le travail. Mais je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Là, je n'ai pas de recherche précise à vous proposer et à vous résumer en deux minutes qui se serait plutôt déroulée en collège. Oui, mais on l'envisage tout à fait. Je sais pas sur d'autres choses que j'ai pu faire. Toujours un peu dans le même esprit d'essayer. Alors là, ce à quoi je vais faire allusion là tout de suite, on est moins dans une recherche descriptive de ce qui se fait avec le recul de l'observateur, mais c'est des dispositifs qu'on a essayé et évalué. J'avais pas mal travaillé il y a quelques années sur un dispositif qu'on avait inventé avec des collègues de journal des apprentissages, hein, où j'ai écrit des choses là-dessus qui sont assez faciles à trouver, hein, article dans la revue Repère, un chapitre dans un ouvrage qui avait été coordonné par Dominique Bucheton, et écrire, parler pour penser, apprendre et se construire. Donc un dispositif de journal des apprentissages où il s'agissait où il s'agit, parce que ça se pratique toujours dans des écoles et des collèges, où il s'agit justement d'amener les élèves à aller au-delà des aspects les plus superficiels des tâches, hein, mais par des bilans écrits réguliers de ce qu'ils ont appris, hein, d'arriver progressivement à non seulement à récapituler, mais surtout à saisir des enjeux. Je ne vais pas au-delà dans le descriptif du dispositif, mais là, j'intervenais récemment dans un collège de l'Académie de Lille où ils pratiquent ce journal en sixième, en cinquième, en troisième, et où on a donc là un exemple de dispositif pas miraculeux, mais qui vise, hein, à travailler des aspects qui sont des aspects auxquels j'ai essayé de vous sensibiliser, ou pour ceux qui l'étaient déjà, de dire des choses en tout cas aujourd'hui. Donc c'est, on essaie de les travailler aussi en collège. C'est des choses qui sont, dont se sont emparés des collègues de collège et de manière intéressante.
Merci beaucoup pour cet exposé. pour tous ces apports à la thématique de la formation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous accompagner pendant les deux jours dans ce que vous nous avez présenté. Moi, j'aurais une question, peut-être, enfin méthodologique, mais qui peut avoir aussi des conséquences sur la façon dont on peut entendre ce que vous nous avez dit. Donc, vous avez parlé de la comparaison de trois classes. Est-ce que vous avez comparé dans votre travail des situations à l'intérieur de ce qui se passe dans ces classes ? Est-ce que vous avez contrasté pour une même classe différents types de situations, différents types d'activités langagières ou d'activités scolaires, où on pourrait à ce moment-là peut-être retrouver dans chacune de ces classes des moments qui tendraient peut-être plus vers le style de la classe A ou de la classe N ou E. Enfin, je ne sais pas si... donc, vous nous présentez des profils d'enseignants.
Des profils qui, donc, forcément, sont un peu forcés. Hein,
voilà, mais justement, peut-être...
Dès qu'on profile, on essaie de mettre en évidence ce qui montre les traits les plus marquants.
Les plus marquants, oui.
Hein, mais, bien évidemment, rien n'est... bien sûr, rien n'est caricatural et c'est ce que j'ai essayé de dire aussi quand j'ai présenté la recherche. Hein, il s'agissait indéniablement de classes avec, dans les trois cas, où les élèves sont mis au travail, hein, de manière différente et avec des succès différents. Mais dans tous les cas, aussi par des enseignantes engagées dans leur travail et qui est désireuse, justement, c'était ma réponse à la première question, très heureuse d'ouvrir leur classe à des chercheurs, parce que désireuse justement de se former et d'avoir l'occasion de faire part de leurs interrogations et d'avancer avec l'aide de chercheurs. Donc c'est vrai que les choses ne sont pas caricaturales, même si ce que j'y ai vu était quand même assez net Alors, du point de vue méthodologique, je l'ai un tout petit peu dit, mais peut-être de manière sans doute trop diffuse. Ce qui nous permet d'affirmer des choses comme ce que j'ai affirmé aujourd'hui, sans trop la crainte que ce soit uniquement dans ces classes ou que ce soit anecdotique, c'est la récurrence de situations qu'on a pu reconnaître là et analyser d'une manière un peu précise parce qu'on avait filmé la classe. Mais c'est la récurrence de phénomènes qu'on a observés très très souvent et avec des objets d'apprentissage différents, hein, même si les exemples que je vous ai donnés aujourd'hui et les exemples que je prends dans le chapitre sont assez centrés sur des objets qui ont à voir avec la lecture des textes, l'écriture, la grammaire, la conjugaison, etc. Hein, j'ai pris aussi une ou deux fois des exemples en maths dans le chapitre. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, hein, mais je n'ai pas élargi. C'est vrai que on pourrait se poser la question du rapport entre ces pratiques langagières mises en œuvre et les contenus disciplinaires, hein, ou les objets, les domaines d'apprentissage concernés. C'était pas notre objectif, là. Mais la question se pose et mériterait d'être étudiée de manière plus. Bon, on n'avait pas forcément la matière là, parce que on est allé régulièrement, je sais plus, dans une classe c'était tous les mardis, dans les autres classes. Bon, on est allé régulièrement et il se trouve malgré tout que dans les emplois du temps, il y avait des choses qu'on a vues et il y a certaines disciplines qu'on n'a jamais vues. Donc notre corpus n'était pas non plus tellement favorable à travailler la question que je viens d'énoncer.
Moi, je me suis interrogé quand je vous ai entendu parler du lien que vous faisiez entre la co-construction, la difficulté et la grande quantité d'oral de l'enseignant. Parce que pour moi, il me semblait que c'était presque à la limite pas assez nuancé, puisque c'est pas tellement pour moi une question de quantité d'oral de l'enseignant, mais plutôt de la nature de l'oral de l'enseignant. C'est-à-dire que si on est sur un oral de l'enseignant qui est de l'étayage, il peut être important ou pas, il va avoir un rôle. Par contre, on peut avoir aussi des enseignants qui parlent, qui ont une grande quantité d'oral, mais qui a un oral plutôt, on va dire, entre guillemets, transmissif, et qui n'a aucun intérêt. Et par contre, à l'inverse, je ne sais pas si je suis très clair, c'est l'oral des élèves, il peut être aussi un moyen de les impliquer et de les rendre acteurs. Et s'il est effectivement corroboré par l'étayage de l'enseignant, il a un rôle. Donc le fait de jouer sur dire quand il y a une grande quantité d'oral de l'enseignant, c'est peut-être un indicateur. Je ne suis pas sûr que ça soit véritablement un indicateur permanent.
Je crois que j'ai dit la même chose que vous, mais peut-être pas suffisamment fort et de manière répétée pour que... C'est pu être entendu. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec vous et j'avais eu l'impression de le dire aussi.
Pour rebondir à ce que le collègue dit, moi j'ai l'impression aussi, dans ce qu'on peut voir en classe, cette interaction entre professeurs et élèves, jeu de questions-réponses, etc., c'est toujours assez compliqué pour les élèves, notamment dans les cours de langue vivante. On voit que pas mal d'élèves sont en difficulté à ces moments-là. Et j'ai l'impression qu'il y a, parce que ça va très vite aussi, il y a un facteur temps. Et parfois, on voit des exemples où les élèves peuvent préparer cet échange avec le professeur qui guide après leur réflexion. Et j'ai l'impression que dans l'exemple que vous avez montré, parce que ça m'avait frappé aussi, effectivement... Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de participation à ce moment-là dans la classe, mais je peux envisager beaucoup de situations de classe où il n'y a que certains élèves qui peuvent participer à ce jeu-là. Et j'ai l'impression que le langage, pour les élèves, il faut quand même qu'ils le construisent, un peu le puisent dans ce qu'ils ont, peut-être quitte à ce que l'enseignant derrière, comme vous dites, répare certaines erreurs ou certaines déviances dans la construction du discours. Voilà. Donc, est-ce que vous avez pu observer d'autres situations comme ça avec des enseignants qui guident beaucoup la réflexion des élèves?
Oui, enfin, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Est-ce que ce que l'enseignante de la classe A, est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce que d'autres enseignants savent faire ça?
Oui, parce que moi j'avais l'impression que...
Oui, non, mais c'est vrai que c'est difficile à mener. C'est vrai qu'on ne voit pas énormément d'enseignants qui arrivent à instaurer ce genre de choses. Parce que, alors, vous avez vu les exemples que j'ai pris, c'était au mois de mai. C'est le travail de toute une année. Hein, c'est le travail de toute une année. C'est à la fois cette mise en confiance et cette compréhension de ce que c'est que de travailler collectivement pour comprendre un texte ou pour construire quelque chose en grammaire ou en mathématiques. Construire un savoir ensemble en s'appuyant sur ce qu'on sait déjà, en s'appuyant sur ce que va apporter, comme je te disais, l'enseignante elle-même, à chaque fois que c'est nécessaire, ben oui, c'est quelque chose qui se met en place progressivement dans la classe et effectivement, dans la pratique de cette enseignante et d'autres, le fait de que ça ne qui que les moments collectifs puissent être préparés par des moments où les élèves réfléchissent, enfin où on laisse le temps aux élèves de réfléchir, voire de réfléchir le stylo à la main, le crayon à la main, ben oui, c'est, enfin je vais tout à fait dans votre sens. Mais c'est quand même un peu différent, et quand je dis un peu différent, c'est une litote, d'avoir ce genre de pratique hein, où il s'agit hein, de s'atteler à une construction collective, étayée, argumentée, avec l'aide de chacun. Hein, c'est pas et en se prenant le temps, quand il faut, de s'arrêter pour réfléchir, hein, pour que tout le monde soit en état de réfléchir, hein, et non pas de se laisser dépasser par la rapidité des échanges où les plus lents seraient perdus, hein, absolument. Hein, mais ce genre de choses est quand même assez différente de ce qu'on voit plus classiquement et de ce que pratique, par exemple, l'enseignante de la classe N, hein, où on donne des questions. Hein, on en attend des réponses très formatées et ensuite et ben on fait la correction dans une espèce de succession où le groupe et les interactions qu'on pourrait appeler cognitivo-langagières sont absentes et où donc il n'y a pas de travail à ce moment-là, il n'y a pas de construction. Bah, oui, l'enjeu, c'est de savoir si on a bien fait une phrase complète et si on n'a pas commencé sa réponse par parce que. Bon. C'est pas. Bon, c'était ça que j'avais. Je suis tout à fait sensible à votre intervention qui permet d'insister sur l'importance de donner le temps aux élèves de réfléchir et non pas de se laisser entraîner hein, par une rapidité d'échange où c'est toujours les plus rapides et les plus agiles avec le langage ou ceux qui ont le plus de bagages, que ce soit du côté de leur expérience ou du côté de leur habitude à mettre à distance grâce au langage.
Oui, merci. Peut-être pour compléter un petit peu ce qui a été dit juste précédemment, est-ce que justement dans les exemples là, que vous avez montrés, c'était toujours selon le même scénario, je dirais, ou est-ce que vous avez choisi des moments où c'était des mises en commun et qui aurait eu du travail aussi où les élèves avaient plus de temps pour réfléchir, du travail en groupe, et est-ce que ça c'était représentatif d'un type de travail qui était toujours sur le même plan assez vertical et assez de type structure en IRE hein, question, réponse, évaluation, oui, on peut le dire quand même. Ou est-ce que ça représentait ces moments-là, les moments plutôt de mise en commun?
Oui, c'est les moments de mise en commun.
D'accord.
Évidemment, il y a des moments où les élèves réfléchissent, travaillent, écrivent, etc. Sans, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours dans cette classe en train de travailler en collectif. Oui.
D'accord. Merci.
Et je rebondis sur la question de Nathalie. Et du coup, dans ces moments qui n'étaient pas de remise en commun, la place du langage, pour le coup. Qui est, parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'il y a du langage entre pairs. Vous n'avez pas du tout pu filmer et pu voir comment, entre ces différentes classes, les élèves pouvaient ou pas réinvestir finalement ce que l'enseignant modélise dans l'explicitation, dans la secondarisation.